话。Vers 4 heures de l'après-midi, comme je l'avais promis, je me rendis chez Lucien. Jeanne se trouvait chez son frère. Elle aimait à rentrer tard. J'étais libre jusqu'au dîner. Il faisait le même temps que la veille. Depuis une semaine, il y avait chaque matin, dans le ciel bleu, la même traînée blanche qui s'évanouissait vers midi. Chaque matin, le soleil, en avance d'une minute, parce que l'année commençait, apparaissait sans qu'aucun nuage ne le masquât. Je marchais vite. Il me plaît d'aller chez un ami, de pénétrer l'intimité d'une chambre, de deviner l'usage des objets, les raisons de l'emplacement qu'ils occupent. À mesure que j'avançais, les chaussées devenaient plus étroites, les maisons plus basses, les carrefours moins importants, puisque les rues gardaient le même nom après les avoir traversées. Dans le froid, les lumières, qui naissaient d'abord chez les coiffeurs et les marchands d'objets petits, ne se rejoignaient pas et avaient des rayons comme ceux que dessinent les enfants. En cette fin d'après-midi d'hiver, le soleil n'était pas plus haut que lorsqu'il se lève. Je profitais qu'il fût sans force pour fixer mon regard sur lui. Comme la lune, il avait des taches. On eût dit qu'il était revenu après s'être couché. Lucien demeurait dans une vieille maison dont la façade s'effritait. On était tenté d'arracher chaque écaille, ainsi que l'écorce des arbres, pour trouver dessous un mur lisse et frais. L'escalier, comme celui des monuments, montait entre deux murs humides. Une barre de fer, fixée sur l'un d'eux, servait de rampe. Je pénétrai sous une voûte pavée de galets secs au milieu. Je traversai une cour servant à plusieurs bâtisses dont l'une donnait sur une autre rue. Des voitures à bras étaient remisées dans un local. Je passai devant la porte ouverte d'une cave où la flamme d'une bougie disparut sans qu'un appel retentît. Je m'engageai dans un corridor que les locataires suivent en comptant leurs pas et même en fermant les yeux tant il est obscur. Le froid rendait ma sensibilité si grande que je fis attention de ne pas me cogner. Je dus, avant de m'être habitué à la hauteur des marches, m'appuyer contre les murs, du bout des doigts, parce que je n'aime pas plus toucher un mur que le sol quand il m'arrive de ramasser une pièce de monnaie. À partir du troisième, j'aperçus le soleil par les fenêtres des paliers. Il n'avait plus de force. Aucun rayon n'éclairait les marches sombres. Arrivé au dernier étage, j'attendis que ma respiration redevint régulière. On ne pouvait aller plus loin. La maison s'arrêtait là. Que j'eusse pu ainsi la parcourir, moi qui n'en étais pas locataire, me surprit. Une échelle, pour monter sur le toit, était couchée le long d'un mur. Dans une porte, à l'endroit où il y avait eu un verrou, un bouchon de papier empêchait l'air de passer. Les murs, bruns jusqu'à la hauteur des serrures, gris au-dessus, étaient crayonnés. Bien que l'on eût pu savoir qui il était, un inconnu avait écrit un mot grossier. Je frappai à la porte de Lucien, au milieu, pour que le coup résonnât mieux. Je n'étais pas ému. Ma visite était si peu de chose à côté de celle que mon ami m'avait rendue la veille. La porte s'ouvrit. Je vis une fenêtre sans rideau donnant sur les toits, le papier déchiré des murs dont l'envers était blanc de plâtre, un lit cage dont Lucien devait faire tourner les roulettes des pieds lorsqu'il était plié, le carrelage qui avait été arrosé avec un entonnoir. Je fis un pas. Un carreau du sol bougea. Une odeur de poussière et de charbon de bois se mêlait à la fumée d'une seule cigarette. La photographie de l'escouade de Lucien pendait toujours au mur, ainsi qu'un vieux calendrier qu'il gardait pour l'image. Le plafond était bas. Parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire depuis longtemps, je levai la main pour le toucher. C'est ridicule de l'avouer, mais j'aime toucher un plafond. « Te voilà !» dit Lucien. « Je croyais que tu ne viendrais pas. » Il avait les mains mouillées. Ce fut le coude qu'il me tendit en le levant au lieu de le baisser. Il était en pantoufles et marchait entre les spirales d'eau. Il n'avait pas de veste. Un pan d'étoffe grise passait sous son gilet. J'eus l'impression qu'il portait deux chemises, une ceinture de flanelle, du linge propre et sale en même temps. Je m'assis sur une chaise sans barreaux, dont les pieds demeuraient verticaux tant qu'on ne la changeait pas de place. Je relevai mon pardessus. Je tirai mon pantalon, comme les femmes ne manquent jamais de le faire quand elles se moquent des hommes. Les mains sur les genoux, je regardais autour de moi. Un journal était déployé sur la table, à l'endroit pour qu'on pût le lire en mangeant. Des clous qui avaient servi traînaient. Sur le dossier d'une chaise, Lucien avait gravé son nom de famille, Garin, en lettres majuscules, sauf le G, qu'il ne savait tracer. Il passa derrière moi. La chambre m'apparut alors vide, comme si elle m'appartenait. Il me sembla que de nouveau, j'étais pauvre, seul, que je ne savais ce que je deviendrais. Je pensai à Jeanne. Qu'elle fût occupée, que bien que je fusse tout pour elle, elle ne dût pas songer à moi en ce moment, m'attendrit. Non, ce n'était pas moi qui vivais là. J'étais maintenant un homme. Il me serait arrivé quelque chose, des gens, Jeanne, son frère, ses amis, m'auraient défendu. Je regardais la fenêtre. La moitié du soleil avait disparu. Je me souvins qu'enfant, j'aurais aimé à me promener sur les toits. Des fils de fer maintenaient les cheminées. Les yeux me piquaient. Je n'osais les frotter parce que j'avais touché des sous. J'avais gardé mon pardessus. Il m'a paru que j'eusse dû me lever, l'ôter, l'accrocher au bouton de la porte, bien qu'il ne fût pas assez haut, parler, rire. Lucien s'était assis à la tête du lit. Il glissa la main sous l'édredon pour en arrondir le dessus. Lorsqu'il eut fini, il me regarda, s'attardant sur ce qui dépassait de mes poches. Un porte-mine, des journaux, une chaîne de montre, la pointe d'un cigare. Il avait bu. Le sang rougissait ses joues, son front, la peau plus fine d'une ancienne cicatrice. Il respirait si lentement que je voyais son corps grandir. Ses doigts n'étaient pas droits. Les dernières phalanges se cambraient comme celles des mains que mon père n'aimait pas. J'étais tout près de lui, au point que le moindre mouvement, même de recul, m'eût fait le toucher un instant. Il n'était pas rasé. Sa barbe avait poussé plus fournie aux joues, avec deux éclaircies inexplicables de chaque côté du menton. Au coin de ses paupières, il y avait un peu de blanc qui eût glissé sur la peau s'il avait fermé les yeux. Il avait une grosseur sur un seul côté de la paroi qui sépare les narines. « Elle t'aime beaucoup, ton ami ?» Seul avec moi, il s'efforçait de ne pas être timide, ne l'ayant jamais été au temps où nous nous fréquentions. À quelques rides qui n'existaient pas quand son visage avait son expression habituelle, je sentis qu'il m'enviait. « Tu dois être heureux dans ton appartement. Il ne te manque rien. Ce n'est plus comme avant. » Il parlait avec détachement, allant jusqu'à me quitter des yeux avant de finir ses phrases, mais sans jamais manquer de me rappeler ma vie passée. « La connais-tu depuis longtemps ?» Il attendit ma réponse, la bouche entrouverte, les traits subitement vieillis, avec une anxiété qu'il tentait de masquer par des jeux de physionomie que rien ne provoquait. Je ne répondis pas. Il se frotta les mains, regarda ses ongles, quoiqu'ils ne fussent pas soignés, pour me faire croire qu'il avait oublié la question qu'il venait de me poser. Je sentis combien il souffrait, combien j'étais heureux à côté de lui. Je compris que je n'eusse pas dû, en l'invitant, mettre en regard de sa pauvreté mon aisance. Je cherchais à le réconforter. Sans que je pusse m'expliquer pourquoi, je devinais qu'en lui disant que Jeanne était une amie d'enfance, que c'était le hasard qui m'avait fait la rencontrer, il serait soulagé. Je connais Jeanne depuis 10 ans.
Elle s'appelle Jeanne ?
Oui, ce n'est pas un joli nom. Son visage demeura le même. Il eut à une joue, par nervosité seulement, un léger tressaillement qu'il ne pouvait réprimer, qui n'affectait pas la chair. C'était la peau qui tour à tour se plissait et redevenait lisse.
« Elle te donne de l'argent ?»
Cette fois, j'eus un mouvement de défense. Que Lucien se permît de me poser une telle question m'irrita. À force de me voir compatir à ses peines, il pensait qu'il pouvait m'humilier comme bon lui semblait. Le soleil avait disparu sans laisser de rougeur. L'obscurité montait vers le ciel encore bleu.
« Elle t'en donne certainement. Allons, avoue-le !»
Il prononça ces mots avec bonhomie. C'était comme au malheureux que j'avais été qu'il parlait. Mon aisance présente était pour lui un accident. Elle ne durerait pas. Bien que chaque jour je m'imposasse de penser que j'étais destiné à la vie que je menais, que c'était l'autre vie qui avait été un accident, il m'apparut une seconde qu'il avait raison. Une étoile clignota. Elle était si haute qu'on ne pouvait la prendre pour une lumière de la terre. Un coup de vent fit bourdonner les vitres. Une ligne séparait l'ombre de la clarté. Nos souffles montaient jusqu'à cette ligne. J'avais le sang aux mains. Je remuais. Je sentis tout le long du corps, sur mes côtés, le froid courir, éveillé par le mouvement. Lucien s'était levé. Il alluma le petit poêle. Je le suivis des yeux. Sa pomme d'Adam bougeait parfois, comme s'il eût avalé quelque chose. Le col l'arrêtait. Elle reprenait alors sa place à l'endroit où elle avait marqué la peau.
« Tu es heureux, toi, Armand ?»
Sa langue n'avait pas remué. Ses lèvres semblaient ne s'être pas séparées. Venue de l'ombre, ces mots chassèrent ma rancune. Cet homme n'avait jamais été heureux. Depuis des années, il vivait seul, inquiet, préoccupé de sa santé fragile, méprisé des gens qui le connaissaient de vue. J'eus un remords d'avoir manqué d'indulgence à son égard. Je le regardais. Il s'était assis sur une chaise, dont il ne restait du dossier qu'un montant enduit de colle sèche. Adossé de travers, il fumait une cigarette. Le frère de Jeanne employait 4 ouvriers. J'aurais pu lui parler de Lucien. Il lui aurait peut-être donné du travail. Mais je sentis que jamais je n'oserais le présenter à qui que ce fût après l'attitude qu'il avait eue chez Jeanne. Aussi, parce que je voulais faire quelque chose pour lui, parce que la différence de nos conditions m'était pénible, je ne pus m'empêcher de lui dire « Aie confiance en l'avenir ». Il leva la tête sans ouvrir davantage les yeux. Son menton était éclairé par les flammes du poêle. La lumière glissait parfois jusqu'à ses oreilles, dont l'ombre pointue s'allongeait et diminuait tour à tour. Son visage, de demeurer impassible sous les reflets mobiles qui l'éclairaient, me parut plus triste encore. « Tu devrais allumer aussi la lampe, Lucien. » Il se leva. Sa cigarette était si courte qu'il la maintenait entre le bout de ses doigts quand il la portait à ses lèvres. Je n'osais lui présenter mon étui d'argent. Avant qu'il allumât, je regardais le ciel. Il était constellé. La lune, affaissée sur un côté, parce qu'elle n'avait pas encore atteint sa plénitude, brillait. La lumière de la lampe, me dépassant soudain, effaça tout. Je me retournai. Lucien s'était assis près du feu qu'il connaissait, qu'il savait ne pas devoir le brûler à cette distance. De temps en temps, une larme perlait dans l'un de ses yeux, mais, aspirée chaque fois, elle disparaissait sous les paupières. Il avait éteint sa cigarette entre ses doigts. Il se chauffait les mains, un côté après l'autre, la paume plus longuement parce que la peau en est plus épaisse. Devant tant de pauvreté et de simplicité, j'eus honte de vivre largement. À cet instant, si Jeanne n'avait pas existé, je me fusse levé. Je lui eusse pris la main et je lui eusse dit « Je suis ton seul ami ». Le poil avait rougi si vite que je me rendis compte qu'il suffisait d'oublier une fois de l'alimenter pour qu'il s'éteignît. Lucien le surveillait. Il y avait sur ses pommettes un réseau de veines fines. Le cerne de ses yeux entamait même le haut du nez comme s'il eût porté des lunettes. Il était voûté. Mon élan vers lui, il l'ignorait. Je lui en eusse fait part, il eût peut-être cru que je mentais. Il ne devinait pas tout l'amour que je lui vouais. Il n'attendait aucun acte charitable de personne. Il n'y avait sur ses lèvres ni un brin de tabac, ni une goutte, ni une gerçure. Si lisse, si fraîche, elle contrastait avec son visage taché de mille riens. Il toussa, tira sa langue à plusieurs reprises, puis se courba pour secouer la grille du poêle. Son front rougit du côté où il pencha la tête. Il s'assit de nouveau au milieu de sa chaise. Je sentis contre ma joue la fin de son haleine. Ses yeux se portèrent sur moi. Il ne levait la tête ni ne la baissait. J'étais le seul être humain qui s'intéressa à lui. Ma présence le comblait. « Viens, Lucien, nous allons prendre l'air. Cela nous changera les idées. » Cette fois, il me regarda. Son double menton disparut. Ses paupières se replièrent. Les yeux entourés de blanc, le visage attentif, il m'apparut plein de candeur et d'anxiété. Je me levai. De nouveau, je touchai le plafond de la main. J'attendis Lucien près de la porte. Avant de quitter sa chaise, il mit de l'ordre dans ses vêtements, se chaussa, chercha sa clé dans ses poches pour n'avoir qu'à me suivre, une fois debout.